Je suis très ravi de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir. Nous sommes au mardi 8 octobre 2024. Il sont 11h sur votre radio. 11h, vous comprenez que c'est l'émission Club de la Presse qui démarre. Nous sommes au deuxième numéro pour le compte à l'heure de cette semaine. Bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Thomas Itek aussi d'Ativi assure la mise en onde. Jérôme Akoutia est à la mise en ligne. Je suis Pascal Lessou au micro. Salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires, Radio Lumière à Nero, Radio La Paix à Takpame, Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Merci également à vous qui nous suivez partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Mais vous pouvez nous écouter également sur nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Les Bénins. Comme de la presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays et aussi d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi, Justin Nani, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous les fidèles, à toutes les auditrices également qui nous suivent en ce moment. Bien des choses à la population d'Anero, vous n'êtes pas sans savoir que le choléra est en train de faire tellement de rage. Et j'encourage cette population-là à prendre des mesures, qui sont des mesures idoines pour éviter cette maladie. Donc coucou à la famille, des Kouakbo, des USA, et également papa et maman de Ekoué qui sont en vacances à Lomé. Et bien des choses également, la famille Tétéli Vunza et la fondation Tétéli Vunza.
Merci. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien dans l'ensemble.
Oui, je rends grâce au quotidien lorsqu'on a la respiration. On ne peut que remercier Dieu. Donc le reste, c'est une question de temps.
Tout à fait. Le reste, c'est une question de temps. Eric Parcoudou-Dosson, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour chers collègues, bonjour chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM.
J'espère que vous allez bien.
Disons oui, Pascal, depuis le dimanche, il faut le reconnaître, c'est comme un tsunami chez moi, avec...
Qu'est-ce qui se passe ?
La disparition du ministre Pré.
Tout à fait.
Vous savez, c'est quelqu'un qui m'a toujours pris pour son fils. Il a un collaborateur qui a été un confrère pendant longtemps avant de se retrouver à la primature. Pascal Dotiavi, qui l'appelait adjoint. Et moi, il m'appelait l'adjoint de l'adjoint, parce que je suis très proche de Pascal. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai partagé beaucoup de choses. Et ces derniers temps, à chaque fois qu'on se disait qu'on allait se voir, c'est qu'il n'était pas bien, il devait aller se faire soigner à l'extérieur, tout en suivant également des soins sur place ici. Voilà pourquoi... son décès qui est survenu à l'hôpital Dr Lafia où il recevait également des soins au pays. J'avoue que c'est très dur pour moi parce que ce monsieur, hier j'entendais un collègue dire de lui que c'est un monsieur qui donnait la joie partout où il se trouvait, évidemment. C'est le monsieur qui nous a quittés. Je peux donner beaucoup d'anecdotes sur lui, mais tout ce que je retiens, c'est quelqu'un qui est très attaché au pays. C'est quelqu'un avec qui, quand vous discutez, il est très modeste. Il ne parle jamais de lui. Tout ce que lui veut, c'est que le pays avance. Vous savez, il a travaillé avec le président, le feu Gnassingbé Eyadema, et qu'il appelait plan, parce que c'est un administrateur c'est en termes de planification, il est l'un des meilleurs. Et je crois que c'est pour cette raison même que le président de la République l'a encore gardé à ses côtés hein, pour continuer ce travail-là. Et je voudrais dire, pour ceux qui ne savent pas, parce qu'on a eu à entendre beaucoup de choses sur la société SECO, j'ai eu la chance de vivre la genèse de cette société-là, où Pré a reçu M. Constantin Amoussou, et tout est parti de là, parce que le pays cherchait des moyens pour construire des infrastructures routières, et il fallait que quelqu'un vienne faire des propositions importantes, et c'est ce que Constantin est allé faire au ministre Pré, qui l'a aidé à rencontrer justement le premier ministre Rumbo et jusqu'à ce que cette société-là soit créée. C'est vrai qu'il a été déçu par la suite par rapport à ce que SECO est devenu. Néanmoins, je voudrais dire que ceux qui ont raconté que c'est Ayassor, c'est qui a créé SECO, non, ce n'était pas du tout ça.
D'accord. D'accord.
Je crois que c'est quelqu'un qui a vraiment aimé son pays.
D'accord.
Qui a aimé les hommes.
Merci.
C'est très
merci.
Touchant. C'est très touchant.
Merci beaucoup, Eric. Adam Adrono, bonjour.
Merci de m'avoir invité. Bonjour aux auditeurs de la radio 93.
J'espère que tu vas bien.
Et par la grâce de Dieu.
D'accord. Nous sommes au mardi et là, nous parlons culture, parlons littérature. Et Claude Siobotti, c'est là. Claude, bonjour.
Bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Je vais bien.
D'accord. Vous êtes critique et conseiller littéraire, aussi écrivain, et vous êtes toujours dans cette aventure hein, de culture avec nous depuis un temps, et c'est chaque mardi que nous animons cela. Et nous poursuivons notre état des lieux de la littérature togolaise, et nous allons essayer de saisir un peu aujourd'hui la silhouette alors de quelques écrivains les plus représentatifs. La dernière fois, vous classiez les écrivains togolais, vous avez parlé alors des écrivains absents et des écrivains de proximité. Quels sont ces écrivains de proximité, Claude?
Je vais d'abord les classer en deux sous-ensembles. Est-ce que ceux que j'appelle des vétérans jeunes, il y a alliance de mots, contradiction.
Tout à fait, un vétéran qui est jeune.
Oui, ils sont vétérans par l'âge, relativement, et par leur culture littéraire, mais jeunes parce qu'ils sont venus à la création littéraire et à la publication d'une œuvre littéraire tard. Hein? Je peux les citer, c'est Madame Rita Amenda, c'est Pedro Aban, des gens qui connaissent déjà très bien la littérature pour l'avoir enseigné, mais qui n'ont pas publié tôt. Daniel Lawson Bolly, et Joseph Kofigo, qui n'a pas un parcours littéraire, mais qui est relativement, qui a un âge assez âgé aujourd'hui, qui est venu taire la littérature, Monseigneur Barriga, Ketlina Dodo, la femme du ministre Dodo, et Omson Dieudonné, et Sekou Kadjamgabalo. Voilà ce que j'appelle les vétérans jeunes. Il y a les jeunes, tout simplement, les jeunes, ils sont nombreux. Hein. Et lorsque je parle de jeunes, c'est d'abord l'âge. Il y a l'âge relativement. Mais il y a aussi la plume. Ceux qui sont encore en chemin, on sent le talent, mais la maturité n'est pas encore tout à fait au point, mais qui vont arriver, on le sent. Et il y a ceux qui ont déjà, sont jeunes, mais qui ont une plume de maître. Il y en a. Tout ça, c'est dans un contexte de publication d'œuvres de d'auteurs, hein. Ce n'est pas d'éditeur. Hein. Il y a Charles Olens, Steve Ojona, Matt Faré, Moïse Nanjo, Kumel Anate, Madame Tassim Tchoukalo, De Savir Renaud, Katiembe Jean, Anna Satakura, Vierge Koudoussou, Patron Enekou, Ikabou Makani, Viège Koudouzou, Karoué Atchal, Djouti Marlène et Gina Defanti. Voilà, hein, je peux en oublier, mais c'est ça, la liste est assez longue.
La liste est assez longue. Et vous-même, vous vous classez où, Claude, par rapport même d'ailleurs à cette classification que vous venez de faire?
Mais moi, je, tu sais, au Togo, où la, le temps est presque aboli, où tout est pollué, politisé, copinage partout. Bon, j'attends que le temps revienne et on me classera. Peut-être la possibilité me classera. Pour le moment, je m'occupe des autres. Mmh. C'est une simple classification.
Alors, la fois passée, c'est vrai que nous parlions même d'ailleurs des emblématiques. On se souvient de David Ananou et tout, mais dans la classification, eux, ils se trouvent où?
Je crois que la classification, là, je préférerais les classer dans l'autre. Je les classais dans les absents. Hein, ceux que je cite aujourd'hui, si je dois peut-être parler, c'est peut-être que j'aimerais parler plutôt de ceux qui sont de proximité. Ceux qui sont de proximité. Hein. Si le temps le permet, je ne sais pas. Hein, si le temps le permet.
Oui, on peut facilement rappeler justement ces écrivains que vous avez appelés des écrivains. Vous avez classé même d'ailleurs, hein, où vous les avez désignés comme des écrivains absents.
Oui, les écrivains absents, oui. Vous voulez que je les...
Oui, oui.
Je les rappelle.
Tout à fait.
Bon, j'ai parlé de... Je les ai classés en trois. Il y a ceux qui sont en exil, entre guillemets, Agonakbouta Zissou, par exemple. Entre guillemets, je le dis, parce qu'il peut revenir. Il est parti avec conditions politiques. Qui l'ont traumatisé. Il était au Conseil de la République. Il y a ceux qui sont carrément partis définitivement. Edem Kodjo, Janet Aronsou, Kwasivi, comment vous l'appelez, j'oublie son petit nom. Kanyi Djage Kanyi, il y a Edem Kodjo, etc., etc. Et ça, c'est les décédés. Hein? Ceux qui sont éloignés. Ceux qui sont éloignés, c'est les Samichak, les comment vous l'appelez là?
Qui?
Celui qui revient souvent là. De temps en temps. Il y a Kossifui, il y a Samichak, il y a Demahoumé, il y a.
Anasatakura?
Non, Anas, lui, il est à cheval. Anas, c'est comme Alem. Alem, je le place à cheval. Il est dans la diaspora. Il est aussi au Togo. Je suis en train d'oublier son nom, curieusement. Il revient souvent.
Au pays.
Au pays.
D'accord. Ok, ouais, mais c'est vrai que vous avez classé ces auteurs tout de suite. Alors, pouvez-vous.
Théo Ananisso.
Voilà. Pouvez-vous alors dégager les emblématiques de ces sous-classes et nous dire en deux leur profil?
Oui, je crois que le temps ne nous suffirait pas de dégager tous ces emblématiques, mais oui. on va parler peut-être aujourd'hui des jeunes. Des jeunes, ça veut dire en deux sous-classes, jeunes comme jeunes vétérans et jeunes. Jeune, vraiment. Il y a monsieur Monseigneur Barriga. Hein. Lorsque je parle d'abord des plus représentatifs, et sachez que c'est trois choses. Il y a d'abord, c'est l'écriture. Lorsqu'on dit que l'écriture est représentative, ce n'est pas parce qu'il écrit une histoire. Ça, tout le monde peut le faire. Tout le monde a des histoires. C'est pas l'écriture. L'écriture que je... dont les trois caractéristiques littéraires sont l'expressivité, je le rappelle, l'expressivité, l'originalité et la profondeur, les trois. Si vous avez une force dans l'un de ces domaines-là, alors vous êtes appelé écrivain. Donc, c'est le comment vous écrivez l'histoire et non l'histoire que vous écrivez ou le message que vous délivrez. Ce n'est pas le côté d'information. Il y a aussi ce côté... plus représentatif, lorsqu'on est représentatif, c'est pour un public. Il faut être consommé. Ce n'est pas l'écrivain nécessairement consommé par le vulgaire. Il faut être un peu averti, il faut avoir un goût, ce qu'on appelle le goût littéraire. Il faut avoir un peu lu, connaître les marques littéraires, hein, parfois, il faut avoir même l'âge littéraire. L'âge littéraire en littérature...
Qu'est-ce que vous appelez par l'âge littéraire?
L'âge littéraire, c'est quelqu'un qui connaît vraiment la littérature. Qui connaît vraiment la littérature. Qui sait ce que c'est que la littérature.
Là, c'est.
Qui peut lire une œuvre amère et vous dire que c'est splendide. L'œuvre est amère, mais c'est doux. mais c'est ça. Et ce n'est pas nécessairement une histoire. C'est comme Kafka. Grand Kafka, vous lisez, vous avez envie de jeter là. Mais les grandes œuvres ne sont pas très faciles à consommer. Il faut avoir l'âge littéraire. Il faut être un grand. Donc, parmi ces écrivains que j'ai cités, parfois, il y a des grands. Vous pouvez les lire, vous allez dire, mais ça, c'est, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mais c'est un grand. Est-ce qu'on a le temps de le prendre un à un?
Non, je pense quand même
oui,
que
la prochaine
temps,
fois,
ouais, la prochaine fois, on va revenir.
J'aurais aimé que la prochaine fois, on le prenne un peu. Qu'on s'attarde sur les prises représentatives.
Tout à fait.
Représentatives, moi, ça me tient à cœur. Que je veux mettre en lumière, que je veux inviter les Togolais, tous les Togolais, à lire et à faire lire à leurs enfants.
D'accord. Merci beaucoup, Claude, d'être passé dans cette émission. Ça fait toujours plaisir d'être avec vous. Merci et passez une bonne journée. Alors, chers confrères, nous revenons pour parler notre débat en studio. Et Eric, vous nous donnez le premier sujet par rapport à ce débat que nous allons animer. Nous parlons agriculture. Vous écrivez « Journée mondiale alors du coton, la culture du coton face au changement climatique ». Alors, c'est un grand thème. Et quand on prend la culture alors du coton face au changement climatique, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le défi à relever?
Le vrai défi, c'est comment adapter la culture du coton au changement climatique. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, au niveau des Nations Unies, on parle du développement durable. Dans le développement durable, on allie commerce, agriculture et tout ça, on allie tout ça à l'environnement. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus suivre uniquement les saisons comme cela se faisait dans le temps. Vous savez, on a ce problème-là aujourd'hui parce que nos parents, nos cotonculteurs avaient en tête les saisons. Ils disent, à partir de tel mois, nous pouvons semer les graines de coton et après 2 mois, 3 mois, etc., nous allons récolter le coton. Et chaque année, cela se passait comme eux, ils l'ont toujours souhaité parce que la pluie répondait, la saison sèche suivait, etc. On a au Togo 2 saisons pluvieuses et 2 saisons sèches. Et donc, ça se répétait, ça se suivait et le coton poussait selon le climat qu'on a. Aujourd'hui, malheureusement, quand les parents suivent ces saisons-là, mais ils sont tout faux parce que les saisons pluvieuses ne suivent plus les saisons sèches, d'où la nécessité aujourd'hui pour les services de météorologie d'aider les cotonculteurs à pouvoir planter au moment opportun en leur disant la pluie arrive à partir de tel instant, donc à partir de ce moment vous pourrez planter et vous attendez la prochaine saison pour pouvoir récolter. Et ça aussi, ce n'est plus évident. Tout ça là, à cause des changements climatiques. La nature qui devient encore plus chaude et les saisons pluvieuses. Parfois, il y a un excès. Quand il y a excès d'eau, mais automatiquement, les cultures sont détruites. Et là, je pense que la nouvelle société cotonnière est en train de faire un travail avec la société de météorologie pour pouvoir aider les cotonculteurs à suivre le climat et à pouvoir récolter selon les résultats escomptés. Malheureusement, tout ceci ne se passe pas de la même manière sur toute l'étendue du territoire. D'où la nécessité d'avoir au niveau de chaque région des conseillers météorologiques et des conseillers au niveau de la nouvelle société cotonnière du Togo. Et je crois que c'est ce qui se fait et d'où nous parlons du climat, de la culture du coton face au changement climatique.
D'accord. Alors, Justin, est-ce que déjà, quand on voit notre production de coton aujourd'hui, parce que c'est vrai, nous sommes connus, quand je parle du Togo, quand je parle de nous, je parle alors du Togo, le Togo est connu également pour sa production de coton. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on arrive vraiment à voir l'impact de ce coton, de cette culture à l'extérieur?
Non, moi, je ne le pense pas, parce que quand on prend les meilleurs pays aujourd'hui, le Togo n'en fait pas partie. Sauf que sur la base de ce rapport de Business Ready, où on annonce que le Togo fait partie des meilleurs pays réformateurs, avec tout ce qui va avec tout le discours qu'on nous annonce là, moi je me pose beaucoup de questions, parce que les difficultés, vous avez vu.
Qui vous annonce
Ça fait quelques mois, on a vu le mouvement des cotonculteurs du Togo. Donc, tout ce qui a été annoncé, il n'arrive pas à rentrer dans la possession de ce qu'ils font comme travail sur le terrain. Il n'arrive pas à gagner grand-chose. Avec tous ces mouvements-là et avec ce que nous avons comme résultat au plan national ou au plan international, je pense que lorsqu'on classe aujourd'hui les meilleurs pays, donc il y a le Bénin, il y a le Burkina, il y a le Mali, je n'en sais plus trop. Mais le Togo, bon, je ne sais pas. Maintenant, s'il faut une véritable politique en la matière, je pense qu'il faut mettre les moyens. Et ce sont ces moyens-là qui, aujourd'hui, à mon sens, font défaut. Donc, lorsqu'on n'arrive pas à agranger tellement un certain nombre de choses, sur cette base-là, je pense que tout ce qu'on peut entendre ici et là n'est que du bluff. Excusez-moi l'expression, mais c'est la réalité. Maintenant, qu'est-ce qu'on met dans la danse lorsqu'on est en face d'une situation de changement climatique, et comment faire pour aider ces paysans-là dans leurs activités au quotidien? Je pense que c'est là où la grosse interrogation doit se situer. Et vous allez également constater que sur le terrain, beaucoup maintenant, ça donne à la culture de soja, contrairement à ce que nous avons vu, la mobilisation qui est faite au niveau des paysans, que ce soit au niveau des pays et des produits ou des cultures de rente. Café, cacao, aujourd'hui, quelle est la place du Togo? Maintenant, aujourd'hui, c'est l'or blanc. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que c'est autant d'éléments sur lesquels il faut quand même se refaire et analyser et voir s'il peut véritablement apporter de solutions.
D'accord, merci beaucoup, Justin. Alors, Adam, aujourd'hui, est-ce tel que Justin l'a dit, est-ce qu'il faut plutôt une nouvelle politique ou une politique rentable de la culture à l'or de coton?
Vous savez, la politique togolaise est toujours calquée sur ses ambitions. C'est vrai, lorsqu'on prend le coton, le classement, il est mondial, il est africain, etc. Mais à ce que je sache, jusqu'au jour d'aujourd'hui, au regard des ambitions des installations industrielles installées, vous savez, avec la PIA, etc., je n'en ai pas souvenance d'avoir appris que le Togo a importé le coton d'un pays voisin, notamment lorsque il s'est parlé donc du Bénin comme et le Burkina, qui sont nos pays voisins. Je n'ai pas souvenir d'avoir appris que le Togo ait importé le coton de ces pays-là pour alimenter les industries implantées actuellement. Qu'à cela ne tienne, c'est vrai qu'il peut y avoir des manquements, des différences à corriger, etc. Et comme je l'ai dit, le Togo a mis l'agriculture au cœur de sa politique. Et par rapport à cela, lorsqu'on parle dans le secteur du coton, bon, paix à son âme, Eric le disait tantôt, lorsque vous prenez le ministre, justement, pour que le chef de l'État puisse avoir un regard directement sur la production, ici même une année où il a imposé, au-delà du international, il a mis un prix, en tout cas incitatif, pour inciter naturellement les producteurs de coton à atteindre, en tout cas, un barème qui sont fixés. C'est vrai, chaque année, ce barème dégringole, mais je pense que le Togo fait ses efforts en ce qui concerne ses productions. Mais lorsque vous prenez, par exemple, le café a pris un pas sur le cacao, parce que je viens d'une région qui en produit, et bien évidemment, on dit la Côte d'Ivoire est le premier, le Ghana suit, et je pense le Cameroun, qui est le troisième producteur, etc. Mais je pense que les ambitions, vous voyez, et cette année, on a lancé, par exemple, et la campagne de recensement des acteurs, c'est justement pour voir quel est ce monde-là qui s'adonne à ces produits-là, qui sont des produits aujourd'hui très prisés et qui permettent en réalité au pays de pouvoir donc améliorer ses scores à l'international. Donc, c'est au regard du point de départ et à un point arrivé, point B, qu'on essaie véritablement donc de calquer, en tout cas, ces classements, notamment le dernier classement qui est le Burundi ou le Togo encore occupé, la dragée haute en ce qui concerne les réformes dans le pays. Donc, ce n'est pas grosso modo en nous comparant aujourd'hui dans ce que nous produisons en ce qui concerne le cacao qu'on se dit vraiment, on se compare à la Côte d'Ivoire, qu'on dit qu'on est performant. C'est du départ d'un point A à un point B. Et tout ceci, justement, pour améliorer le quotidien des Togolais. Ça peut ne pas être suffisant, mais de toutes les façons, chaque pays a son rythme et ses objectifs.
D'accord, chaque pays a son rythme et ses objectifs. Nous sommes rejoints par Isidore Akolo. Isidore, bonjour.
Bonjour.
Alors Isidore, nous sommes en train de parler du coton et justement, les confrères ont bien fait de toucher aussi ce rapport, un rapport business et ready, qui 2024, où Eric titre sur le sujet, bien sûr, rapport business ready 2024, que le Togo en pôle position en Afrique de l'Ouest. Alors, quand on prend aujourd'hui ces différents classements, on comprend que nous sommes en train de faire des performances et des performances.
Non, il ne faut pas qu'on fasse d'amalgame. Quand on parle de la pollution cotonnière, discutons-en. Par rapport aux performances économiques que le Togo fait, nous risquons de faire d'amalgame. Moi, je voulais plus parler de la production cotonnière.
Tout à fait, on reste sur cette production.
Oui, oui, après on peut venir
au classement.
Au classement.
D'accord, allons-y. C'est vrai, par
si
rapport
tel,
à... Oui.
Si tel est le cas,
oui, justement,
vous êtes le modérateur.
On parle de justement, on était déjà en train alors de parler de cette production cotonnière avant que vous n'arriviez.
Oui.
Donc parlons-en, oui, pour ce qui concerne la production du coton aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez, quelle analyse vous faites alors de cette production au Togo?
Non, on est en train de combattre les brèches. Le Togo avait une production optimale jusqu'à ce qu'on crée l'industrie textile de Dacha qui produisait Tivi à l'époque. Tivi de bonne qualité. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? C'est avec Areto, Group Shock, Animation, et l'industrie de Dacha a plombé à cause de ça. Et la production aussi a chuté. Aujourd'hui, quand on nous parle de tout là, bon, moi, je n'ai aucun élément d'appréciation. Sauf que l'industrie de Dacha, à l'époque, dans les années 80, a disparu. On nous parle aujourd'hui de PIA, où on voulait faire des tissus et autres, c'est pas des... C'est pas juste ce qui se passe. Ils vont se faire là. Est-ce que c'est des tricots, des habits? Moi, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Voilà ma position sur la production cotonnière. Mais aujourd'hui, le constat est amer. On a abandonné la culture de rente, la culture vivrière au profit, la culture vivrière au profit de la culture de rente. Coton, soja, vous connaissez la crise dans la filière soja. On ne produit plus de maïs, de manioc et autres céréales qui sont les produits de première consommation au Togo. Pire encore, on a laissé les cultures traditionnelles, les pratiques traditionnelles. Aujourd'hui, vous allez partout, c'est les herbicides, les engrais que le Togo, même l'autorité, donne aux fermiers de produire et qui tue nos terres. Quelle politique agricole nous avons au Togo? Ça, c'est ma grande question.
D'accord.
Est-ce que nous allons tuer nos sols? C'est la grande question que nous devons nous poser pour qu'on se réveille. Le soja togolais était qualifié de soja bio. Aujourd'hui, tout le monde sait à l'international que nous ne sommes plus bio. Allez-y comprendre quelque chose.
D'accord. Alors, Eric, quand on prend cette politique aujourd'hui agricole, on ne va pas dire quand même qu'il n'y a rien qui se fait sur le terrain. Il y a toujours quelque chose. Peut-être que c'est la performance que nous n'avons pas encore.
La performance y est.
Nous ne pourrons pas, avec la situation actuelle, justement, pour cette journée mondiale du coton, qui est le 7 octobre de chaque année, je pense qu'il y a un angle que nous avons voulu traiter par rapport à cette journée, et c'est la culture du coton face au changement climatique. Alors, quels sont les impacts des changements climatiques sur la culture du coton? Alors, quelles solutions peut-on trouver pour que la production cotonnière revienne ou bien reprenne ses lettres de noblesse? C'était ça la question. Je pense aujourd'hui que très sincèrement, vous savez, pour le coton, quand il y a une longue période de sécheresse, le coton perd sa qualité. De même, quand ça perd la qualité, ça veut dire que ça agit automatiquement sur le producteur.
Le rendement.
Le producteur n'a plus un bon rendement. Par conséquence, il n'a plus de moyens. Ce qui fait que la saison qui va suivre, il lui sera très difficile de produire encore du coton. D'où la nécessité aujourd'hui pour les autorités et tout le secteur, je veux dire, tous ceux qui sont impliqués dans ce secteur-là, de trouver des solutions idoines, en collaboration surtout avec les producteurs, pour que nous puissions sortir de cette léthargie. Au-delà du changement climatique, il y a aussi le problème des parasites qui plombent forcément la culture du coton. C'est autant de défis qu'il faut que tous les acteurs s'asseyent pour trouver des solutions pour qu'on puisse s'en sortir. C'est vrai, la situation, ce n'est pas uniquement au Togo qu'on la trouve, mais c'est toute la production africaine qui est en difficulté. Surtout que les prix ne sont pas fixés par ces producteurs-là ou par les premiers acheteurs du coton, mais c'est sur le plan international
qu'on fixe les prix. Alors, Adam disait tantôt qu'il y a un moment où l'autorité a décidé de fixer un prix au-delà du prix de kilogramme à l'extérieur. Cela, c'est pour aider nos cotonculteurs à pouvoir continuer à en produire. Oui, aujourd'hui, on voit que les gens ont délaissé un peu les cultures vivrières pour les cultures de rente, parce que au-delà des cultures vivrières, où si tout le monde en produisait, alors comment l'on peut rentabiliser le secteur de l'agriculture en général? Parce que autant tout le monde produit les mêmes choses, c'est-à-dire les produits que nous consommons de consommation locale, autant il y en aura tellement qu'on peut parler d'excédents. Et les produits de rente, c'est ça qui leur permet de joindre les deux.
Je crois qu'il y a un paradoxe dans le domaine agricole. C'était une institution, je pense, de la Côte d'Ivoire, bonne gouvernance, quelque chose qui a fait un sondage d'opinion au Togo. Contrairement à ce que les gens pensent, que l'agriculture est majoritairement, et en tout cas, employée par les agriculteurs qui sont dans les fermes, mais le paradoxe est que les grands investisseurs dans nos agricultures, qui font de grands espaces parce qu'ils ont des moyens, ce sont les cadres des administrations, les cadres, contrairement, parce que c'est la survie au niveau des petits agriculteurs. Mais les grands investisseurs de l'agriculture au Togo, ce sont les cadres de l'administration.
Oui, non,
moi, je voulais revenir sur la production cotonnière. Et avant les années 80, on produisait du coton bio. Et c'est le Burkina qui a inventé le coton BT pour faire face aux intempéries et autres. Donc, c'est OGM, organisme génétiquement modifié. C'est OGM, le coton BT. Qu'on nous dise aujourd'hui que les OGM qui ont ravagé, ont fait disparaître les cotons naturels, aujourd'hui ont encore des problèmes. Ça veut dire que la science a échoué.
D'accord.
La technologie a échoué. Et on a le courage de le dire. Tout ce qu'on produit, c'est les cotons BT. Et le Burkina était en pole position. Après, ils sont revenus du que ça détruisait leur culture. Où en sommes-nous?
D'accord, où en sommes-nous? Oui, mais Justin, c'est vrai que quand on prend les difficultés que la production cotonnière a aujourd'hui, bien sûr, alors sur le continent, ça repose même la question de la politique, même du continent, dans cette production. Et aussi la question, surtout, de la transformation, des industries de transformation sur le continent.
Mais tout à fait, c'est l'organisation. Parce que nous sommes en face d'une situation de l'offre et de la demande. Quel est le constat qui est fait aujourd'hui? C'est parce que la demande est forte au plan international. Maintenant, à l'interne, quelle est la politique qui est adoptée? Je pense qu'il revient aux décideurs de mener une politique de telle enseigne que ce secteur-là ne soit pas quand même négligé. Mais également, d'autres secteurs où les gens s'intéressent aux cultures, comme on l'appelle, vivrières, puissent quand même évoluer. Et comparativement à la journée du 7 octobre, qui est célébrée la journée de l'or blanc, et vous prenez un certain nombre de pays, notamment le Bénin, la question est de savoir comment est-ce que les Béninois ont procédé et ils se sont en arrivés là aujourd'hui. On prend un pays comme le Burkina, et qui depuis quelques années et connaît ce que nous savons, y compris le Mali. Mais ces pays-là arrivent à sortir du lot avec tout ce qui est organisation. Voilà. Si au plan international ou au plan africain, le constat établit qu'il y a un certain nombre de pays qui, jadis, dans les années 80, effectivement, qu'on prend le Togo, c'est un pays sur qui on peut quand même compter par rapport à la production qui est faite.
Mais malheureusement, aujourd'hui, le constat, c'est que on estime que dans le volet agricole, des projets sont annoncés, des dispositions qui se sont prises, mais nous sommes à la traîne. C'est là où je dis qu'il y a véritablement un problème qui se pose, notamment sur la gestion, sur la politique agricole qui est adoptée à l'interne même du pays, et par rapport également à ces acteurs-là, qui sont des acteurs qui mènent, je sais pas, la vie dans ce secteur. Bon, si on n'arrive pas à les identifier, à poser le vrai problème, à chercher des solutions idoines, je pense qu'on va tourner en bourrique, et on va chercher des mots, on va trouver des qualifications, mais on n'en sortirait pas. C'est là où, véritablement, il faut penser à une véritable politique agricole en la matière, en tenant compte également des cultures qui sont des cultures de rente, notamment le coton dont on parle, le café, cacao, etc. Et également les produits qui sont des produits vivriers, auxquels il faut véritablement aussi encourager les paysans à aller dans ce secteur-là, pour que la faim qui nous domine aujourd'hui n'en soit pas en arrivée là. C'est malheureusement le constat qui est fait sur le terrain.
D'accord, c'est le constat qui est fait sur le terrain. Alors, oui, mais quand nous parlons même d'ailleurs de ces produits, c'est des produits propres à nous, des cultures, enfin, qui existent dans la production alors togolaise. Et nous savons que nous sommes en octobre, et octobre, ça nous rappelle justement le mois de consommer local. Adam, déjà, je lis à la une de votre journal Vision d'Afrique ce matin, mois du consommer local. Consommer local, c'est une déclaration d'engagement envers le producteur et le PME-PMI. C'est un propos ou c'est des propos alors de la ministre Kayi Mivedor.
Oui, tout à fait. Je pense que ce mois instauré par l'UMOA pour inciter à la consommation locale. Puisque vous savez, l'un des les mots qui mine en réalité tout ce que nous disons en ce qui concerne aussi bien l'agriculture, puisque vous savez aujourd'hui l'emphase est mise sur le fait qu'on puisse donc transformer nos produits. Malheureusement, ces produits sont transformés, surtout on a parlé aussi bien du coton. Je rappelle tout à l'heure, lorsque nous payons la PIA, vous allez voir même avec en tout cas vous irez au c'était, vous verrez qu'il y a des productions, les tricots, etc., qui sont exposés, qui sont fabriqués à la PIA. Même il y a des sandales, des chaussures qui sont fabriquées à la PIA, mais on n'a pas toujours l'information que c'est au Togo, c'est fabriqué. Ça, c'est une parenthèse. Donc, pour dire, en revenant donc à ce que vous, la question que vous avez posée, justement, inciter à la consommation de ces produits transformés-là. On parle du café. Très souvent, il y a des unités de production, de transformation du café. Mais combien sommes-nous à en consommer donc le café avec tous les stéréotypes qui entourent cette consommation, etc., et qui réduisent en réalité cette ferveur-là à aller vers cette consommation. Il y a plein d'autres produits. Donc je pense que l'instauration de ce mois-là, si même nous prenons toute l'année à ne pas le faire, faisons un effort pour avoir un œil assez regardant sur ces producteurs-là qui font, puisque aujourd'hui on dit voilà, c'est cher, mais ne serait-ce qu'à dégager un petit minimum pour soutenir cette consommation locale-là, vous en rajouterez, en tout cas, à cet engagement, à cet engouement-là, à aller vers la production, à aller vers la transformation, à inciter ces producteurs-là à faire davantage.
D'accord. Isidore, est-ce que quand on parle alors de consommer local, est-ce que vous n'avez pas l'impression que nous sommes plutôt dans les discours et non dans l'action?
Dans les slogans. Ce n'est que du slogan. Mais voyez ce que portent nos autorités, leurs habits. Mais ils ne consomment pas local. Quand on parle du consommer local, ce n'est pas aller acheter Veilly et Watché dont on parle. Il y a le service aussi. Combien de fois les Togolais sont sollicités à rendre service à l'État? On préfère les consultations internationales. DSK, qui encore, prêtez-moi les noms.
Tony Blair.
Mais alors qu'on a des experts en interne, ça aussi c'est du consommer local. Mais c'est l'autorité qui t'a donné l'exemple. Chaque fois il est quatre épingles bien cravaté,
Combien de fois vous avez vu Ford Nyasimbe en Batakali ou en tissu traditionnel? Jory Rollis, il a montré l'exemple. Que faisons-nous au Togo?
Mais Isidore, est-ce que là aussi, il n'y a pas une question de goût?
Quel goût?
Goût personnel.
Goût personnel? Alors là, vous n'êtes pas togolais, vous n'êtes pas traditionnel. Vous ne pouvez pas inventer la consommation locale quand vous vous mettez toujours en cravate. Vous avez vu le Burkinabé, Rockmark,
Christian Kabore, ancien président.
Ancien président. Mais il a montré l'exemple. Il paraît que notre président, bon, quand tu lui parles de ça, là, il est furieux. Ce sont les indiscrétions qui me sont parvenues.
Parce comment pour dire qu'il n'aime pas le...
Il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Est-ce que tu l'as une fois vu, hein, en tenue traditionnelle? Jamais. Jamais. Ce n'est pas normal. Je me souviens, et au temps du Burkinabé Sankara, au moins, le vendredi, tout le monde se met en tenue traditionnelle de l'ANE, d'info. Oui, oui. Mais on ne fait jamais la promotion. C'est nos autorités qui doivent faire la promotion.
D'accord.
Et nos grandes dames là, c'est les gabadis, les grands noms, les grandes marques. D'accord. Quand on se fait la promotion du consommé local.
Ok. Justin,
oui. Qu'est-ce qu'on met dans la consommation locale? Parce que,
bon, mais la consommation locale, c'est-à-dire ce qui est produit chez nous, nous devons consommer cela et faire la promotion.
Mais là, ce qui est produit chez nous, est-ce qu'on arrive à le consommer? Quand on prend par exemple, moi je pense que c'est une question d'habitude, hein, parce que les hautes personnalités qui sont en charge du pays, qui dirigent le pays, ils sont en train de donner les exemples. Donc, vous prenez le président ghanéen actuel, Nana Addo Akufo, et vous le voyez dans sa tenue, peut-être traditionnelle, pas moment ou événementiel. C'est une question d'habitude. Bon, si le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, n'a pas pris l'habitude, n'a pas pris le goût de
consommer local.
De consommer local, de porter des tenues traditionnelles, on ne peut pas le lui en vouloir. Mais moi, je pense que ceux-là qui sont les personnalités de Mac à la tête du pays doivent quand même montrer l'exemple. Je pense que c'est en le faisant que le peuple va dire attention, voilà ce qui se passe et ce qui est décrété. Quoi. Bon. Si on change dans les discours, voilà, consommer local et que le comportement ou les habitudes changent, je ne pense pas qu'on pouvait quand même copier ou quoi que ce soit au niveau de ces personnalités-là.
D'accord.
Donc, c'est que du slogan.
Eric,
je pense que il faut définir un peu ce que c'est que la consommation locale. Je dis tout simplement, c'est d'acheter, de consommer ce qui est produit à côté de nous, y compris les biens et services. La consommation locale, c'est un tout. Ce n'est pas seulement le vestimentaire. Je pense qu'il y a également la bouffe.
Tout à fait.
Quand on parle des autorités, c'est vrai, vous avez une habitude. Justin disait tout à l'heure que c'est une question d'habitude. Vous avez l'habitude de vous mettre en jean pour aller travailler en tant que journaliste. À quel moment vous allez porter le pagne? Le pagne dont on parle, est-ce que c'est produit chez nous?
Ça se produisait.
On parle de quoi? Du mois du consommé local, qui est ce mois d'octobre 2024.
Du présent.
Du présent. Excuse-moi. Et donc, ce qui est produit localement, c'est ça que nous devons consommer. Je dis, est-ce que quand nous disons que telle autorité ne consomme pas local parce qu'il ne s'habille pas en panne, qu'est-ce qu'il mange, est-ce qu'on le sait?
Caviar.
C'est pas évident. C'est pas évident. Et donc, je pense que...
Non, je te donne la réponse.
En train de dire, consommer local, ça veut dire que tout le monde doit savoir qu'il y a des choses qui se font chez nous et que nous devons forcément consommer. Moi, je ne prends pas l'exemple sur quelqu'un, mais plutôt je me dis, il y a cette dynamique-là qui veut que désormais ce qui se fait chez nous, que nous arrivons à les consommer. Isidore a bien dit que on n'exploite pas l'intelligentsia nationale. On va aller chercher des consultants ailleurs, alors qu'il y a
des
compétences sur place. Et donc, ça aussi, c'est du consommer local. Donc, je dis, consommer local, c'est les biens et services et les produits qui sont fabriqués, qui sont là, à proximité de nous.
D'accord.
Oui, tout à l'heure, il y a Justin qui nous disait, c'est une question d'habitude, mais une question également de goût. C'est là où on invite en réalité tous ces producteurs-là à être dans la diversité et faire en sorte que leur goût soit quand même en adéquation avec le goût de l'autre. C'est pas forcément...
Et surtout la qualité.
Oui, la qualité également, l'emballage, tout ça là, voilà. Donc, par exemple, moi, personnellement, lorsque vous prenez, moi, je ne l'ai jamais même porté lorsque vous prenez les tissus BTK. Moi, ça ne me plaît pas. Mais justement, lorsque vous prenez, il y a des producteurs ici internes. Vous prenez qui habitent d'ailleurs même les chefs d'État. Je veux parler, il y a des Cavellites, il y a les Mario exclusives, etc. Lorsque le président, l'ancien président sénégalais Macky Sall était venu, il avait ses produits là rencontrés. Donc il habille. Donc tout ça là sont des producteurs internes. Ce n'est pas parce que vous ne vous habillez pas en boutique que vous n'habillez pas consommant local. Vous prenez des gens aujourd'hui les vestes. Les vestes, c'est vrai qu'on peut me dire que le tissu n'est pas fabriqué au Togo, entre guillemets, parce qu'on nous a dit que prochainement ça va être fait au Togo. On prend le tissu que des gens vous donnent, donc des vestes que vous portez. C'est du consommer local. On ne va pas toujours les importer de la Chine, de la Turquie, etc. Donc c'est le moment d'être dans sa diversité là, et faire en sorte que en tout cas les productions et la qualité puissent être adaptées au goût. C'est pas parce qu'il y a BTK qui se fait au goût que forcément tout le monde doit apporter BTK.
D'accord.
Je voulais donner un exemple.
Oui, rapidement.
Du consommer local. Est-ce que vous savez que ce que les Européens appellent aujourd'hui pizza se faisait chez nous? Vous dites Gaou.
Pizza africain.
Mais c'est pizza. C'est bizarre. Arrêtons. Améliorer comment? Ils sont venus apprendre chez nous. Et aujourd'hui...
Ils sont allés améliorer.
Bon, ils ont amélioré avec quoi? Mais vous faut tout. Vous faut tout. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas amener un plat de petit gaou dans la maison. Les enfants vont boycotter ça. Mais quand vous amenez pizza, hein, qui n'est qu'un déchet, excusez-moi le terme, un bourratif, ils vont le prendre. Voilà, le consommer local.
D'accord.
Combien de gens, les gens vont prendre Tchoukoutou, Takpalo et Dera à lieu place
de la
bière. Je consomme aussi Tchoukoutou. Ça, tu le sais.
Là, vous faites le mélange. Vous faites bien le mélange.
Non. Je suis un friand de Tchoukoutou.
D'accord.
Bien préparé.
Ok, d'accord. Alors, nous allons aborder un autre sujet rapidement. Justin, on parle alors du soulèvement alors du 5 octobre 1990. Vous souvenez alors de cette date. Alors, il y a le journal Liberté qui titre à sa une Togo, message du MO5 à l'occasion du 34e anniversaire du soulèvement populaire du 5 octobre 1990. Alors, on se souvient même d'ailleurs de cette situation au Togo, ce mouvement ou ce soulèvement du 5 octobre 1990. Aujourd'hui, c'est le 34e anniversaire alors de ce soulèvement. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on retient même d'ailleurs de ce soulèvement, Justin?
Qu'est-ce qu'on retient? Malheureusement, c'était le samedi dernier, le 5 octobre. Ça fait pratiquement 34 ans jour pour jour. Donc malheureusement,
cette journée passée inaperçue. Et si ce n'est pas le M5 qui a sorti une déclaration pour devoir de mémoire, je pense que on peut se poser encore beaucoup de questions, malheureusement. Bon, qu'est-ce qu'on peut retenir encore du 5 octobre 90 ? Il faut relever que les acquis démocratiques au cours de ce combat-là qui a été mené par le peuple togolais souverain qui ne voulait qu'une chose, le prix de justice de l'état de droit et de la démocratie. Mais malheureusement, tous ces acquis-là sont repris aujourd'hui, comme le président du CAR, Robert Yaoundaté, a eu à le marteler récemment, parce que il y a besoin, il y a nécessité pour les forces démocratiques de se coaliser, de se retrouver encore ensemble pour mener le combat. Puisque le pourquoi il y a eu le 5 octobre, aujourd'hui le résultat n'y est pas. Donc la dictature est revenue au galop. On emprisonne des citoyens pour un oui ou un non, parce qu'ils ont une position contradictoire par rapport à la vision de ceux-là qui sont aux affaires. Beaucoup sont aujourd'hui en exil parce qu'ils ne peuvent plus rentrer au pays. Les manifestations politiques sont interdites. On bastonne même les étrangers, les députés étrangers au Togo, même au siège des partis politiques. On ne peut plus avoir droit même d'animer une conférence de presse. On a vu ce qui s'est passé au siège de l'ADI, ce qui s'est passé récemment également au siège de la CDPA à Béa-Mbémé et non à, comment on l'appelle,
à
Nkopé, contrairement à ce que la police nationale a déclaré. Donc c'est autant d'éléments, quand vous les analysez et vous projetez encore dans le temps, vous allez vous rendre compte qu'un combat a été mené. Mais malheureusement, ceux-là qui sont les principaux acteurs, excusez-moi l'expression, mais à un moment donné, ont eu à saboter la lutte. Pour des questions d'intérêt inavoué, le oui, c'est parce que ça ne pouvait pas être le moi, donc ça ne pouvait pas être l'autre. Avec les coq en jambes qu'on a eu à connaître de par le passé, le pouvoir a repris tout ce qui est acquis au cours de ce soulèvement. Malheureusement, le peuple doit encore se mobiliser pour se battre, pour véritablement avoir un état de droit, un état démocratique, un état dans lequel les citoyens peuvent se sentir mieux, et non pour aller chercher à aller à l'extérieur pour se retrouver, je ne sais pas, pour rassurer leur devenir.
D'accord. Isidore, est-ce que vous avez aussi l'impression que les acquis du 5 octobre, les acquis démocratiques aujourd'hui, ne sont pas pérennisés ?
Pas du tout. Le pouvoir a tout fait. Et Adama n'était pas favorable à la démocratie au Togo, contrairement à ce qui s'est passé au Bénin voisin, où Kérékou n'est pas réfractaire. C'est ça, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Ils ont tout pris. Et c'est l'autre là qui nous avait dit, et Nadjaba, qu'on va tout prendre. Ils ont tout pris.
D'accord.
Même la liberté d'expression est en danger. La liberté de la presse est toujours en danger. Aujourd'hui, vous voyez comment nous tournons les langues avant de parler.
C'est même les langues, vous parlez sans être inquiété.
Non, on tourne les langues, on cherche les mots pour ne pas choquer. C'est ça.
Il faut choquer.
Mais nous sommes dans l'auto-censure. Vous voyez ce qui s'est passé avec nos amis. Mais écoutez, aujourd'hui, comme Yadema l'a pronostiqué, on a reculé 100 ans en arrière.
D'accord.
Vous savez, l'autocensure, c'est une valeur, Adam, très sûre de la presse pour...
Attention, ça ne fait pas partie des indicateurs.
Mais je dis non, c'est...
Non, ne dis pas ça devant moi.
Pour éviter en réalité d'être pris par des maladresses, en réalité, ils nous imposent.
L'autocensure ?
L'autocensure. Nous-mêmes, d'abord.
Ah bon ?
Parce que quelque part, non, le doyen Isidore, de toutes les façons, lorsque vous écrivez, c'est que on n'écrit pas fondamentalement pour choquer. En réalité, vous devez répondre. C'est là où moi je dis, en ce qui concerne les journalistes, ça dit que vous écrivez, il faudrait quand même que vous soyez responsable de ce que vous écrivez.
On assume la responsabilité.
De toutes les façons, demain, on ne va pas vous appeler, vous bégayez pas avant. Ce n'est pas normal. C'est en cela que je dis que l'autocensure est une valeur sûre d'une presse de qualité.
D'accord.
Et moi, j'ajouterais d'ailleurs que lorsque, en 90, le secteur de la communication a été libéralisé, c'est vrai, on voyait tout dans la presse. Les gens écrivaient tout, tout ce qu'ils pouvaient écrire. Et donc, à un certain moment, on a senti que ce n'était pas du journalisme. Quand on parle d'autocensure, en réalité, c'est le respect de la déontologie et de l'éthique. Parce que vous ne pouvez pas écrire et ne pas assumer, et ne pas pouvoir assumer, et ne pas pouvoir avoir sur vous les preuves de ce que vous écrivez. Dans le temps, cela se faisait. Et je crois que Isidore sait très bien de quoi je parle.
Mais est-ce que ce n'est pas aussi la liberté d'expression? La liberté
d'expression veut que je m'attaque à toi sans aucune
restriction,
sans aucune preuve.
Vous savez, il faut qu'on explique le concept d'autocensure. Voilà, on laisse Eric terminer.
Je vais définir ce qu'on appelle autocensure.
Ce que je voudrais dire par rapport au 5 octobre. Aujourd'hui, c'est vrai, les jeunes ne comprennent pas.
C'est un nateur, hein.
L'essence.
C'est un nateur du 5 octobre. Dis que tu es un nateur.
Du 5 octobre.
Tu fus un nateur.
Ils ne comprennent pas. Pourquoi il y a eu le 5 octobre? Parce que les gens n'ont pas su expliquer le fondement de ce mouvement-là à la jeunesse. Et Justin disait tout à l'heure que les ténors de ce mouvement-là ont vandalisé la lutte.
Vendanger
la lutte, je ne suis pas sûr. On ne peut pas jeter le bébé avec
l'eau de bain.
Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a des acquis qu'il faut forcément préserver.
Quels sont ces acquis?
Parce qu'aujourd'hui, dans le temps, personne ne pouvait venir à la radio s'exprimer comme nous le faisons aujourd'hui. Il y avait une radio sur laquelle les gens s'exprimaient, mais cette radio-là était mobile. Parce que si vous vous arrêtez pour parler et qu'on sait où vous vous trouvez, c'est que c'est foutu. Donc c'était des trucs qu'on faisait en cachette. Mais aujourd'hui, on peut le faire. C'est des acquis également.
D'accord. Alors, chers confrères, nous allons en arrêter là. Nous allons en arrêter là. On reviendra là-dessus sur Roman, puisqu'il est midi passé de 5 minutes. On va donner la parole à nos auditeurs, puisqu'ils s'impatientent aussi à rentrer en ligne et participer à ce débat avec nous. Nous allons faire un clin d'œil à nos annonceurs. Nous revenons juste après.
Le plaisir pour l'acquérir. Écoutez Canal FM 93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la presse de ce mardi. Maintenant, nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75 pour participer au débat et s'exprimer sur les sujets débattus ici au Club de la presse. 90 86 35 35. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va très bien.
C'est Johannes?
Oui.
D'accord. Allez-y.
Vous savez, c'est désolant, chaque année de la célébration 5 octobre, c'était un journaliste qui, quand on a dit que avant on n'avait pas la liberté de parler comme on veut, avant les journalistes n'avaient pas la liberté de s'exprimer aussi librement sur les médias, mais aujourd'hui on l'a. Et après, c'est-à-dire on ne va plus dépasser cette étape-là. On ne va plus dépasser l'étape là qu'aujourd'hui, on arrive à s'exprimer librement. C'est-à-dire, l'année prochaine, on reviendra en automne. Je suis sûr que Eric Johnson va encore dire la même chose. Avant, on n'avait pas l'habitude de s'exprimer. Aujourd'hui, on a cette liberté. L'année prochaine, il va encore nous dire la même chose. Sûrement, si on retourne à l'année précédente, concernant le 5 octobre, je suis sûr qu'il avait dit la même chose.
Oui, mais Johannes.
Oui.
Moi, je suis intéressé par ce que vous dites, l'analyse que vous faites de cela.
C'est ça que je suis en train de vous dire. C'est mon avis sur l'analyse que vous avez faite. que je donne.
Allez-y.
Ne pensez pas que parce que je cite le nom d'un journaliste, je m'attaque à lui.
Non, je ne pense pas cela. Allez-y.
Ok. Donc, c'est juste pour dire qu'on ne va pas répéter les mêmes choses chaque année. Depuis plus de 10 ans, même plus, on répète la même chose. Aujourd'hui, on s'exprime librement. La démocratie se résume à ça. Tout ce qui se fait de mal à côté, on ne voit plus ça. Il faut qu'on évolue, qu'on ait de l'ambition quand même pour ce pays. Merci.
Merci beaucoup, Johannes, pour votre intervention. 90 86 35 35. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour.
C'est monsieur Nyamavo.
Nyamavo.
Allez-y.
Oui, Godson, merci.
Non, Godson.
Tout censure, ce oui. Que vous avez dit.
Monsieur Nyamavo.
Mais nous sommes dans un pays libre, expression libre, mais libre dans la cage, comme un oiseau libre dans la cage. C'est-à-dire, imaginez un peu les gens, ils pensent qu'ils sont libres. Nous sommes dans un pays démocratique. Ils font une réunion à leur siège. Des individus mal intentionnés, habitués à frapper les gens, font une éruption devant la gendarmerie, frappent les gens. C'est la liberté. C'est ça la liberté. Concernant le consommateur local, je ne sais pas, je n'ai jamais reçu. Le rapport, le Togo importe combien, c'est-à-dire par exemple le kilo de viande de poulet, combien il exporte. Moi, je crois savoir que plus le pays importe et il n'exporte pas, c'est-à-dire que la balance commerciale est déficitaire. Donc, ça veut dire qu'on ne consomme que l'extérieur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut faire des projets du développement du consommateur local. Les gens parlent d'épargne. Les gens ont le culot même de dire qu'ils ne portent pas de kékéli. Bon, il faut discréditer ce que vous produisez. Il ne faut pas valoriser ce que vous produisez. Et l'épargne, à qui la faute? Eric, il n'y a pas l'épargne, par exemple. À qui la faute? À la politique ou bien aux citoyens? Je vous remercie.
Merci, M. Nyamavo, pour votre intervention. 90, 86, 35, 35. Allô? 90, 86, 35, 35. Allô, monsieur Dado, bonjour.
Bonjour.
Comment vous allez?
Ce que moi, je voulais dire, la démocratie, c'est compliqué. Je vais vous donner un exemple. Et le monsieur, là, je ne sais pas de quelle nationalité il est, bon, et Wikileaks, je crois que tout le monde connaît ce monsieur. Mais il a dit la vérité, il est poursuivi. Vous voyez, c'est compliqué la démocratie, c'est pas le tout seul. Il a dit la vérité et le citoyen vous veut sa peau. C'est comme ça. Mais il faut savoir ce qu'il faut parler, même au Togo est encore pire. Donc pour consommer local, je demande au plateau là-bas, est-ce que vraiment les dirigeants consomment local? Mais ça, regardez ce défi. Ils sont tous cravatés, collés venant. Une réunion, en fait, collés venant, c'est normal. Ça. Allons, Burkina, si vous voyez, leur télévision, ils sont toujours dans leur quintet, tout ça, le Ghana, pareil. Est-ce que continue tout goût? Est-ce que ça marche bien? Merci, bonjour.
Merci, M. Gado, pour votre intervention au Club de la Presse. Allô?
Bonjour.
Bonjour, Basile. Comment vous allez?
Je vais tout glaisement comme ça.
D'accord. Allez-y.
Salut les confrères. Je ne vous ai pas suivi du tout, mais j'ai suivi deux intervenants, deux auditeurs plutôt.
D'accord.
Il sait qu'il y a liberté de presse et puis il y a le second là. Bon, pour liberté de presse. Vous voyez, liberté de presse, combien de vos collègues qui sont en dehors du Togo, mais ils vont nous dire qu'ils ont mal fait. Et tant qu'on a parlé de quelqu'un là-bas qui a dit qu'on a aujourd'hui la liberté de presse, que Carlos était où, ils n'ont plus leur presse. Il y a bon nombre parmi vous qui se sont auto-censurés. J'ai entendu maintenant le nom de Francis Napokoura, et je pense que c'est un comme ça, on l'appelle Tampa Express. Je pense que lui-même, il a jugé mieux de ne plus intervenir. Je sais qu'on ne lui a rien dit, mais il a jugé mieux de réduire ses interventions sur les médias. Mais c'est comme ça que nous, on a notre liberté de presse. Liberté de presse à la bosse. Voilà. Quand nous disons Ce n'est pas qu'on veut pourfender, on veut dilipender quelqu'un. Pour tout ça, on veut que, comme quelqu'un peut se sentir à l'aise et chaque fois apprécier que les gouvernants font bien, nous tous, il faut que nous tous, on apprécie nos gouvernants, qu'ils font bien. C'est ce que nous voulons. Merci à vous.
D'accord, merci Basile pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 ou en 315. Allô.
Oui, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
C'est monsieur Mauto.
Oui, monsieur Mauto, allez-y.
Vous savez le plateau?
Le plateau aussi, vous savez.
Ma question, monsieur, s'il vous plaît, est-ce qu'il peut me donner l'identité culturelle du Togo en termes d'habillement de consommateur? Moi, je n'en connais pas. Il s'attache beaucoup à la culture, c'est pourquoi je vais poser la question. Merci, bonne
émission. D'accord, merci pour la question, M. Marteau. 90, 86, 35, 35. Je pense que nous avons encore quelques minutes. Allô?
Oui, c'est... Bonjour.
Oui, bonjour, comment vous allez?
Oh, je vais bien, vous.
Ça va, c'est Évangéliste Senghor.
Voilà.
Voilà. Allez-y.
Bon, vous savez, le Togo traverse une situation tout à fait difficile. Et j'ai l'habitude de dire que je prie pour mon pays parce que le Togo est dans un coma. Et on est en train de, la réanimer, de le réanimer. Vous savez, je reviens sur le riz sur la paix. Dans un pays normal, cette société est fermée en même temps. Parce que vous savez, si vous savez que je ne comprends pas où c'est les gens, où c'est les animaux, que le président et tous ses collaborateurs soient en train de vivre la nation. Vous savez, quand Dieu donne un peu de responsabilité, c'est que le président mérite cela, c'est pour cela que Dieu l'a choisi. Sans la population, il n'y a pas le président. Et sans le président aussi, il n'y a pas la population. Mais il faut que le dirigeant prenne soin de ce que Dieu lui a confié. Je ne sais pas si ce qui se passe là, il est un. Comment est-ce qu'on peut comprendre dans une nation? Tout d'abord, c'est une rôle pour ma nation. Franchement, les gens sont sur le côté en train de ramasser. C'est menace vraiment les autorités togolaises. Excusez-moi, nous sommes des hommes. On est là pour un petit temps. Et je le dis, je le répète tout le temps que tout ce que nous faisons comme des actes retournent. Aujourd'hui, tu le fais, tu es content. Demain, vous allez partir. Mais vos enfants vont payer jusqu'à la quatrième génération. C'est ce que la Bible est en train de dire. Donc, faisons attention.
D'accord. Évangéliste, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne journée. Je pense que c'est lui le dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission de ce mardi. Nous revenons en plateau pour faire un dernier tour de table et clôturer l'émission. Justin?
Oui, tout à l'heure, je parlais des acquis démocratiques. Et je crois que la plupart de pays qui, dans les années 90, ont connu des mouvements, quand vous prenez ces pays-là aujourd'hui, ces pays ont connu l'alternance politique, sauf le Togo. Maintenant, quand on nous parle de la démocratie, et il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut mettre dans le chapelet de la démocratie. L'état de droit, est-ce que véritablement le Togo est un état de droit? Est-ce que la justice est indépendante? Est-ce que le pouvoir législatif qui est conféré aux députés, aux élus de la nation, est-ce que véritablement il les est? Est-ce que l'exécutif AA arrive peut-être à gérer le pays à ce que les Togolais puissent manger une, deux, trois fois? Les droits économiques et sociaux, politiques et autres, est-ce que c'est respecté? Est-ce que les Togolais peuvent maintenant aujourd'hui manifester comme de par le passé? Non, tout est repris. Donc c'est à qui là? Non plus de mise aujourd'hui, donc il faut quand même le relever. Mais je pense que c'est une question de volonté, c'est une question de combat au quotidien. Et c'est au Togolais de comprendre que pour sortir de cette situation, il faut véritablement se retrouver et mener et penser au bon sens. Donc je finis peut-être en disant tout simplement que j'ai commencé cette émission avec l'information selon laquelle dans les lacs aujourd'hui, le choléra sévit. Donc j'interpelle les autorités à aider cette préfecture, notamment à Nehor, avec tout ce que nous avons eu, ces informations-là que nous avons eues le dimanche dernier auprès du point focal, c'est vraiment alarmant, sincèrement, je les invite. Et je profite également de l'occasion pour tirer peut-être sur la sonnette en disant qu'un chef traditionnel au nom de Oba Komlanvi, Olaye Gaoussou, a été intronisé comme le premier chef de Tshokandi la fois dernière, mais aux dernières nouvelles, ça sent très mauvais au niveau de Tshokandi dans la commune de Lac de là, entre cette famille et la famille Atali. Donc peut-être qu'on va revenir encore.
Justement, on va revenir là-dessus. Isidore ?
Ah oui, non, en fait, la préoccupation de tous les Togolais, c'est la liberté d'expression. Ah, vous scrutez tout ce qu'on a dit. La plupart ont parlé de la liberté qui est confisquée. Ça veut dire que les acquis de la démocratie ne sont plus de mise. Voilà la situation. Et ça doit interpeller le président de la République. On ne veut pas régresser. Et aujourd'hui, on nous parle de Doui Business qui est devenu Be Ready, Business Ready. Et le Togo a encore engrangé des performances. Et la question fondamentale que je me pose, à quand le Togo va arriver à des performances économiques à visage humain? D'accord. Mais faudrait-il faut que cette performance qu'on nous vend tant là puisse être répercutée dans nos assiettes sur le panier de la ménagère.
D'accord.
Ce n'est pas à quelqu'un de nous dire que non, vous êtes heureux, alors que toi-même, tu ne te sens pas heureux.
D'accord. Eric ?
Oui, je ne sais pas. Il faudrait que les gens prennent de la hauteur. Hein. Je le dis, et peut-être que c'est... On ne dit jamais, mais peut-être que c'est pour une dernière fois. Monsieur Johannes, Monsieur Namavo, Monsieur Basile... Je voudrais leur dire qu'ils prennent de la hauteur. Personne n'a dit ici que la démocratie togolaise est la meilleure, qu'elle est en avance ou quoi que ce soit. Mais nous prenons juste le temps de réfléchir un peu à ce que nous vivons. Nous parlons du 5 octobre 1990. Je suis sûr que ces gens-là qui parlent aujourd'hui, si on les met dans cet environnement-là, ils ne pourront même pas tenir. Je voudrais leur dire, quand vous poussez les journalistes à dire des choses dont ils ne détiennent pas des preuves et qu'après, ces journalistes-là ont des problèmes, vous ne venez pas à leur aide. Je dis, c'est des soutiens que vous leur montrez, vous les adulez, mais quand ils ont des problèmes, personne n'est derrière eux. Et nous, qui sommes dans la corporation, nous devons toujours dire à nos confrères, attention parce que ne dites pas des choses dont vous n'êtes pas sûr et dont vous n'avez pas de preuves. Aujourd'hui, nous arrivons à tout dire parce que nous sommes sur une radio qui nous permet cela. Quand eux, ils appellent, ils sont derrière leur téléphone, personne ne les connaît, mais c'est nous qu'on connaît. Et donc, il faudrait qu'ils mettent de la hauteur quand ils veulent réagir par rapport à nos propos. Moi, je parle de la liberté d'expression. Oui, tout n'est pas rose, mais il faudrait qu'on fasse des efforts, qu'on avance. Quand je dis, en 90, personne ne pouvait dire ce que nous sommes en train de dire ici. Personne. Je les mets au défi. Et quand on parle de cette lutte-là, ils ne pourront pas. Mais nous, on ne se vante de rien. Nous ne sommes pas là pour parler de nous, mais pour parler des problèmes de la société, de notre société togolaise.
D'accord.
Et je voudrais finir.
Rapidement.
Je voudrais finir. Quand on parle du consommer local, quelqu'un a posé une question. Est-ce qu'il y a une identité culturelle du Togo? Je dis oui. Parce que celui-là qui me pose la question, je ne sais pas si lui-même, ce matin, il est en paille. Comme il dit qu'il faut qu'on se mette en paille. Il y a une identité culturelle du Togo. Mais que nous-mêmes, en tant que Togolais, nous n'essayons pas de faire...
Nous ne valorisons pas.
De valoriser. C'est tout.
D'accord. Adam, rapidement, 30 secondes.
Rapport Biredi, c'est vrai, alors qu'on prend le cadre réglementaire et l'efficacité opérationnelle, etc. C'est vrai, le Togolais se dit toujours « je ne suis pas heureux », etc. Mais c'est tout ceci qui amène véritablement le Togo à se faire évaluer par, en tout cas, ces rapports-là, qui permet en tout cas d'améliorer. C'est vrai qu'il y a encore des défis, mais je crois que ce bond en avant mérite d'être félicité et encouragé davantage à faire mieux pour que demain, ce que voudrait bien évidemment le président Isidore, puisse être réel à tous les niveaux.
D'accord. Merci beaucoup, Adam Adrenou, pour votre participation à ce débat. Et Eric Parkoudou-Johnson, merci d'être passé au Club de la Presse. Isidore Akolor, merci d'être passé aussi dans cette émission. Justin Anani, merci d'être passé aussi dans cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis, vous qui nous avez appelés. Merci. On se retrouve demain, mercredi, à partir de 11h. Merci à Thomas et Ted Atevi qui a assuré la mise en onde. La mise en ligne a été assurée par Jérôme Akoutia. Je suis Pascal Lossou, je vous retrouve demain. Portez-vous bien. Au revoir.